Je pense qu'en plus, on a des mécanismes aujourd'hui, les gens sont réactifs. Les gens qui dirigent les États européens connaissent bien les marchés, ils connaissent la composante, je dirais, la... Il ne s'agit pas de faire de bêtises, mais bon, un basculement politique, c'est sûr que par exemple la France a une révolution lundi, bon, on a un autre sujet, mais voilà, il faut venir dans ce type de réflexion pour se dire le truc va exploser.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma question préférée. On va revenir un petit peu sur la finance puisque dans ces derniers épisodes, on a parlé d'immobilier, à la fois d'hôtellerie et d'immobilier de santé. On voit un marché aujourd'hui qui explose, marché actions, notamment le CAC, puisque à ce jour, on a atteint le plus haut historique, les 7500 points. Donc, on va parler macroéconomie avec mon invité, Stéphane Toulieu. Comment vas-tu, Stéphane ?
Ça va super bien.
Donc, Stéphane, si vous avez vu des émissions, ça fait ton troisième épisode. Déjà, tu es l'invité le plus récurrent et je t'en remercie de la chaîne. Donc, bien évidemment, on va faire une brève présentation de ton passé en tant que président, notamment d'une grosse boîte là, qui va être revendue d'après l'actualité, Atimis Gestion que tu as fondée, et faire un point, dans un premier point un petit peu, des perfs 2022 et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est le trimestre 2023. Et voilà, et après, parler de macro et de voir comment tu sens ce marché action.
D'accord.
Donc, en quelques mots...
Oui, moi, mon parcours, j'ai fait l'EDEC il y a quelques années, en option finance. Ensuite, j'ai fait 8 ans dans une grande banque qui a disparu, qui s'appelait le CCF, qui a été rachetée par HSBC. Mon dernier job, c'était de prendre des participations dans des sociétés de gestion. Et à l'époque, j'ai pris notamment une participation dans Financière de l'Échiquier, que j'ai rejoint. On était 12, on gérait un peu 160 millions d'euros d'encours. Et je l'ai quitté quelques années après. J'étais directeur général, pas président. J'avais un président que je salue d'ailleurs, Didier Le Ménestrel à l'époque, qui était le fondateur. Ouais. Ouais. Et quand je l'ai quitté, elle gérait 7,5 milliards. Moi, j'avais envie d'appliquer la formule grosse boîte, petite boîte, ma boîte. Donc, j'étais totalement dans le truc. Et puis, j'ai eu l'opportunité de reprendre Atimis Gestion. Donc, je suis majoritaire chez Atimis Gestion. Je ne l'ai pas fondé.
Je crois que j'ai déjà fait l'erreur sur les presse.
C'est pas très grave, mais il faut reconnaître aux fondateurs qui sont un collectif qu'ils ont créé la société. Je l'ai reprise, il y avait un peu moins de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion. On a dépassé les 270 millions. Maintenant, on est un peu au-dessus de 200 millions parce que tu l'as mentionné un petit peu, l'année dernière était plus difficile, notamment en termes de performance. Et oui, on fait un parcours dans la durée de très bonne qualité. Alors moi, je veux créer un pôle d'innovation en matière de gestion. C'est principalement de la gestion action. Dans cette gestion action, j'ai un peu relancé les thématiques. Alors c'est devenu à la mode il y a 3-4 ans, mais il y a 6 ans, j'ai importé la notion d'Atimis Millennial. Mmh. Hein, les Millennials investis dans la génération Y, née entre 80 et 2000 par exemple. Et on est pionnier chez Atimis, parce qu'on est une équipe. Il y a 4 personnes à la gestion, au total on est 7 personnes actuellement. On est pionnier sur des thématiques en France comme l'industrie 4.0, comme les générations Z. Je crois qu'on est les premiers au monde à avoir lancé un fonds sur la génération Z. Donc on essaie de créer des concepts innovants, performants dans le temps. Ils l'ont été jusqu'en décembre 2022 a fait beaucoup de mal parce que la hausse des taux nous a fait souffrir. Et puis ce début d'année 2023 est excellent pour nous. Donc je m'en réjouis. On est reparti sur des rails de très bonne qualité. Atimis is back.
C'est parfait. Donc simplement, si on fait un peu l'instant promo sur les différents fonds que tu gères par rapport aux indices, vous êtes situé où ? Donc tu as parlé d'Atimis Millennial, Gen Z qui est beaucoup plus jeune.
Oui, c'est un fonds qui est plus jeune, oui.
Voilà, il y a un fonds aussi qui est plutôt dans la mouvance responsable écologique et Better Life.
Exactement.
En termes de performance par rapport au marché, vous vous situez comment ?
Alors déjà, merci Johan, parce que les bons CGP connaissent bien la gamme de leurs fournisseurs, donc bravo. Bravo de me relancer sur Better Life, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure.
Et un bon CGP fait aussi de la compliance et rassure l'AMF et les autorités de contrôle en disant que, bien évidemment, les performances dont on va parler ne prévalent pas des performances, les performances passées ne prévalent pas des performances futures, qu'un risque permet de créer de la performance. Donc, ceci dit, quand on a de la performance, c'est qu'on a un risque. Donc, il faut bien déterminer ce risque et que ce n'est pas vrai, puisqu'on parlait en off de certains dossiers, qu'on peut créer de la performance sans risque.
Absolument. Bon, voilà. Absolument. Alors, on a des performances qui sont entre plus 6 et plus 12% sur l'ensemble de la gamme. 12%, c'est l'Europe. L'Europe va bien. Tu as mentionné le CAC. Ça se passe très bien. Tous les fonds actions qu'on a sont dans le premier quartile de leur catégorie Cantalys depuis le début de l'année et au-dessus de leur indice de référence en ce premier trimestre. Donc, ça se passe très bien. Alors, les raisons pour cela, d'abord, on a souffert l'année dernière. L'année dernière, notamment sur les fonds internationaux, il fallait avoir du pétrole ou pas. Je schématise, mais c'est un peu ça. Dans le SP500 aux États-Unis, dans l'indice SP500, il y a une seule composante qui a été positive et à plus 50%, c'est la composante énergie. Et nous, on a un biais non pétrole. Moi, j'aime pas le pétrole, donc on n'en a pas. On en a un peu dans l'industrie 4.0, dans le fonds Atimis Industrie 4.0 en parapétrolière, mais on n'a pas de grand major de pétrole. Je crois sur le long terme, je ne crois pas du tout au bénéfice du pétrole, bien au contraire. Et donc, et en ce début d'année, bah, c'est un peu l'inverse, avec l'énergie patine. L'anticipation d'un tassement sur les taux fait qu'on est tracté vers le haut par, les valeurs de croissance retrouvent de la vigueur. Et ça, c'est très bien, parce que nous, on a un biais croissance, qualité, belle boîte. Et alors, donc, ça, c'est super.
Juste pour reprendre, pour les gens qui auraient la mauvaise idée de ne pas regarder les vidéos qu'on a faites, croissance par rapport... On va dire qu'il y a deux catégories, la croissance versus la value. Si tu peux expliquer en deux mots.
Bah, croissance sont des entreprises qui offrent de la croissance, notamment du chiffre d'affaires, donc sur lesquelles on va se dire on achète une entreprise à un instant T et plus tard, j'essaie de faire le plus simple possible, et plus tard elle aura plus de chiffre d'affaires, donc ça nous intéresse parce qu'elle va grandir en gros, tout simplement. Et value sont des entreprises souvent moins chères parce qu'elles ont moins de profils de croissance, mais elles ont un intérêt d'une manière ou d'une autre. Par exemple, elles sont positionnées, des valeurs bancaires ont peut-être moins de croissance, mais à un instant T, vu la configuration de taux, ça peut être intéressant parce que la profitabilité peut être de retour. Des valeurs qui sont positionnés, par exemple, sur le pétrole étaient des valeurs qualifiées de value, le cours du pétrole augmente, et forcément, il y a un intérêt qui revient. Donc, ce côté valorisation et compte, les deux ne sont pas antinomiques. D'ailleurs, on peut avoir deux. Nous, on a un biais croissance, mais on a quelques valeurs qui valent pas cher, qu'on peut qualifier de value. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'en ce début d'année, il y a de l'attraction. Et alors, pour venir sur le CAC qui s'envole, le CAC est quand même devenu un indice du luxe, quelque part. D'accord, on a de la chance. Nous, on est positionnés sur LVMH et sur Hermès, qui viennent de publier. Les chiffres sont fantastiques. D'ailleurs, il valait mieux pour jouer en ce début d'année la réouverture chinoise, jouer LVMH et Hermès, que jouer des valeurs chinoises en tant que telles.
Pour une petite info, puisque j'ai regardé récemment, j'ai une cliente qui justement est ouvrière spécialisée sur les sacs chez Hermès. Donc, elle a la chance d'avoir des actions gratuites. Et je regardais la performance. Sur 10 ans, c'est 600%.
C'est superbe.
Ouais, c'est
superbe.
C'est incroyable. Et LVMH, je crois que c'est 150 sur 10 ans.
Non, mais ce sont des boîtes absolument formidables. Et d'ailleurs, on se plaint d'avoir parfois... On va se plaindre de M. Arnault. Le Steve Jobs français du luxe, c'est Bernard Arnault. Donc, on est ravis de l'avoir. Il crée énormément d'emplois en
Bien
France.
Bien qu'il ait eu une petite visite là, de...
Hier,
oui,
c'est
hier
ça.
On enregistre.
Mais les Français ont énormément de qualités, mais certains d'entre eux ont un énorme défaut, c'est la jalousie. Et au lieu de se réjouir du fait que l'élite finalement mondiale dans un secteur soit en France, que ce soit Hermès, Kering ou LVMH, on va leur taper dessus parce qu'ils réussissent, alors qu'ils créent des emplois et ils payent énormément d'impôts ici. Il vaut mieux que ce soit ici. Moi, je préfère qu'ils soient ici plutôt qu'en Californie ou dans la région de Shenzhen. Donc ça, c'est formidable. Et ça crée de l'attraction sur la pondération du CAC. C'est assez élevé, donc ça crée de l'attraction en ce début d'année. Et le CAC est devenu un peu un endroit refuge pour faire de la performance actuellement pour les grands allocateurs d'actifs mondiaux.
Oui, puisqu'on voit, je crois que le CAC, c'est, depuis le début de l'année, c'est 16%. Le S&P 500, on est encore en négatif de 5 points sur un an.
Sur un an, oui. Sur un an,
ouais. Voilà, là, on doit être à 7-8, je pense, depuis le début de l'année. Donc, tu reviens des États-Unis. On va parler un petit peu des valeurs américaines, puisque vous savez que j'ai une préférence pour cette zone géographique, bien que l'Europe a surperformé les US ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as retiré du coup de cette analyse ? Tu as vu des retailers, tu as vu des gens, parce que, pourquoi je dis ça ? Puisque là, il y a la dernière sortie de Powell qui parle de récession nette, alors qu'on nous avait promis une grosse récession pour lutter contre l'inflation. Mmh. Au niveau US, comment tu vois, on va dire, la macroéconomie sur les valeurs US ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs parties. Depuis le début de l'année, je suis allé deux fois aux États-Unis, une fois en janvier à une conférence de retailers, justement, avec une ambiance assez morose.
Sur le retail.
Très clair. Sur le retail, oui. Avec, bah, le problème, c'est que l'inflation prend, c'est comme en France, hein, prend sur le panier de la ménagère. Et on est dans un moment où les gens achètent de plus en plus de marques distribution, ont du mal à suivre, hein, tout simplement. Et donc là, il y avait la pression. Hein, donc, alors, ça ne concerne pas le luxe, c'est un peu l'enseignement, c'est que les gens qui ont de l'argent continuent à dépenser comme avant. En revanche, les classes moyennes ont de plus en plus de mal à maintenir ce train de vie. Et puis, il y a aussi un pivot qu'on a connu sortie de Covid, qui a été le pivot vers moins de biens. C'est-à-dire qu'en gros, j'achète moins de gadgets pour la maison pendant le Covid et plus d'expérience. Et donc, il y a eu un essor incroyable des voyages. L'été dernier, il y avait des Américains partout à Paris. En plus, il y avait un sujet dollar. Hein, le dollar était élevé. Donc ça, sur cette partie, je dirais, retail, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, les chiffres de la conso sont sortis cet après-midi. On était à moins 0,8%. Donc, assez décevant, en fait. Et on voit que l'effet de la hausse des taux, hein, d'aller à 5%, hein, et on va peut-être reprendre 0,25% lors du prochain round début mai, ça a un impact global sur l'économie américaine. Ça a un impact, pourquoi ? Parce que y a des pans entiers de l'économie qui sont quand même affectés. Je pense par exemple à l'immobilier commercial aux États-Unis. Y a des défauts, hein, maintenant, c'est tout simple. Il y a eu ce problème de la crise bancaire, SVB, First Republic, qui crée cette problématique de credit crunch, c'est-à-dire qu'en gros, les banques vont serrer leurs conditions de crédit. On a passé à un instant T les 7% sur 30 ans, qui est l'indicateur clé pour s'endetter au niveau immobilier aux US. Donc, à un moment, il y a un très fort ralentissement de la demande de crédit pour acheter. Et d'où, d'ailleurs, le pendant, ça a été un envol qui pèse sur l'inflation des loyers. Donc, tout ça, c'est un moment un peu compliqué à appréhender. Alors, moi, je suis assez optimiste. En fait, je pense qu'on va vers un atterrissage en douceur, modulo s'il y a un signe noir, l'invasion de Taïwan, ça pourrait être un truc qui fait que tout ce que je vais dire maintenant est remis en question. Mais moi, je pense que cette hausse des taux, on aurait préféré peut-être qu'elle soit mieux gérée, mais ne critiquons pas. Y a rien. Je pense que un des jobs les plus difficiles actuellement, c'est d'être M. Powell aux États-Unis, le patron de la Fed. Mais cette hausse des taux, elle crée un vrai ralentissement. Elle pèse sur l'inflation. Les derniers chiffres, le CPI, c'était 5%. Les prix à la production qui sont sortis hier, c'était moins 0,5% sur un an. Donc CPI, on est passé à 5% en juin de l'année dernière. CPI, c'est l'inflation de la consommation. Donc c'est plus 5%. On était à 9,2% en juin de l'année dernière. Donc on voit que cet effort, les prix sont en train de baisser. Il y a encore un emploi. Il y a un plein emploi quasiment aux États-Unis. Il y a 3,5% de chômage. Mais on sent que ça tasse un peu au niveau de l'emploi. Il y a pas mal de licenciements. Alors, on a beaucoup parlé des licenciements dans la tech, mais ça s'étend à l'ensemble de l'économie. Maintenant, tous les grands groupes annoncent des plans de licenciement. Donc, on sent que l'économie, gentiment, est en train de ralentir. Est-ce qu'on va vers une... Le pire, ce serait une stagflation. C'est en gros, une récession avec de l'inflation. Mais on a ce sentiment que l'inflation est en train de se juguler. Il y a un petit risque quand même qui suit le risque énergétique, hein, puisqu'on voit que les pays producteurs de pétrole ont tendance à vouloir couper finalement leur production parce qu'ils sentent bien que si on entre en récession, ils n'ont pas envie qu'on tourne à 20 dollars le baril. Donc il y a cet équilibre qui est en train de se créer qui n'est pas évident. Mais moi, je suis assez optimiste. Je ne suis pas du tout négatif, en tout cas en me disant tiens, on va rentrer dans une récession dure, etc. Mais les opérateurs, ça crée de la volatilité. À certains moments, se font peur en disant tiens, en début d'année, il y avait quelques chiffres d'inflation qui restait assez fort. L'emploi US tenait vraiment bien. Donc, on se dit, on n'arrive pas à la... Il est impossible comme l'avait dit un patron de Banque Centrale Allemande, le dentifrice est sorti du tube en parlant de l'inflation. Bon, là, on a le sentiment que c'est assez jugulé. Et les chiffres de croissance au dernier trimestre, c'était 2,8% de mémoire aux US. Donc, on reste quand même sur une économie qui tient, entre guillemets. Après... Là, je sors d'une conférence à Austin, au Texas, que tu connais bien, puisque tu étais à l'université là-bas. Et là, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant en enseignement, c'est pas de la macroéconomie de la minute, parce que ce que je te raconte là, c'est une trajectoire qu'on anticipe, qui peut bouger en fonction de crises diverses ou variées, parfois très importantes, mais c'est des quelques tendances de fond. Et moi, il y a une tendance de fond qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est la tendance vers le découplage avec la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains ont sifflé la fin de partie de la dépendance chinoise dans plein de domaines. Et ce qui crée... Avantage pour les Américains, enfin, il y a un énorme protectionnisme. Il y a ce plan qui s'appelle IRA, hein, de Inflation Reduction Act, qui en fait est un plan de dépenses et d'investissement, notamment dans l'énergie alternative, ce qui est une très bonne chose quand même au pays du charbon et du pétrole. Aller là-dedans, c'est bien, parce que moi, je hurlais il y a quelques mois en disant il n'y a que l'Europe qui fait des efforts, il serait temps que les Américains, les Chinois s'y mettent. Les Américains, ça y est, mettent de l'argent sur la table, mais qui aussi a une composante extrêmement protectionniste, puisque, par exemple, tu as une prime si ta voiture est électrique et fabriquée aux États-Unis. Donc, il y a des boîtes européennes qui implantent des factories, des usines aux États-Unis, parce qu'elles vont bénéficier de ces avantages. Donc ça, c'est du pur protectionnisme, c'est complètement contraire aux règles de l'OMC, mais les Américains s'en moquent. Le président Macron, en allant aux États-Unis, l'a dit, mais bon, pour l'instant... On attend la réplique européenne et c'est toujours compliqué en Europe. Il nous faut du temps, mais c'est vrai que ce serait dommage de rentrer dans un schéma de protectionnisme. Et puis la deuxième composante de ce qu'on appelle le reshoring, la reproduction, enfin recréer de l'industrie dans les pays occidentaux, c'est inflationniste, c'est évidemment un peu inflationniste. Modulo une chose, parce qu'en Chine, on a vraiment des coûts extrêmement faibles. Modulo une chose, c'est que maintenant, il y a de la production avec du digital. Et puis, ça peut être un enrichissement d'autres zones dans le monde. Soit ce qu'on appelle du friendshoring, c'est-à-dire produire chez des copains. Donc, on peut en profiter parce que... Alors, les Allemands en profitent pas mal en ce moment, puisque, a priori, ils vont avoir des usines, des mégafactories Intel, peut-être TSMC. Nous, on a plus de mal à attirer du monde, mais on a quand même de la production industrielle qui se remet en France. C'est une super bonne chose. D'ailleurs, moi, je suis pour l'industrie.
Après, sur le retour de la production industrielle en France, je me demande, quand tu vois certaines personnes, on va dire, des lycéens, j'ai vu... des lycéens parlaient de la retraite à 60 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir la main-d'œuvre des gens qui veulent faire des métiers durs pour pouvoir réindustrialiser? C'est la question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas un vieux pieu parce que le français...
Moi, j'ai un sujet, c'est que personnellement... comment le dire? Politiquement, ça ne va pas plaire, mais... Si nos ingénieurs viennent de Tunisie ou du Maroc, moi, ça ne me pose aucun problème.
Les ingénieurs, on pourra les former.
C'est formidable. Ils seront formés là-bas, on va les piller et ce sera formidable. Ils seront ravis de venir ici.
Mais j'ai pas de problème. À la limite, ces personnes-là, je pense que forcément, un ingénieur français voudra bosser.
Il sera français,
On trouvera. Mais c'est plus pour les tâches moins valorisées, beaucoup plus dures que l'industrie on a pu connaître, même si la digitalisation va...
Moi, je crois que les frontières n'existent pas, mais c'est sur le travail. Actuellement, on peut s'en scandaliser. D'ailleurs, on se fait livrer un bout de sandwich sous la pluie, comme la battante, comme tout à l'heure, par un gars qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, et ça choque personne, et ça continuera. Il n'y a pas de problème, pour moi. Cette histoire de frontières... Et puis, moi, mon analyse, elle est globale, donc elle n'est pas française. Moi, la France, j'ai du mal à l'analyser, la France, parce que c'est pour moi, il y avait un économiste qui avait dit la France, c'est on va rentrer dans les moments controversés, c'est une Union soviétique qui aurait réussi. Et c'est un peu vrai, c'est un pays socialiste avec plein d'avantages, qui a une chance inouïe, c'est que je pense qu'il y a des génies qui sont au trésor, qui arrivent à émettre du papier et de la dette pour financer un train de vie absolument incroyable au niveau droit social, dont certains éléments sont incroyablement précieux, parce que moi je ne suis pas un ultra-libéral, moi je crois que par exemple la sécurité sociale c'est extrêmement précieux, mais d'autres sont hors de contrôle. Et donc la réalité elle est là, et donc on vit dans un système où on parle d'acquis sociaux. Mais bon, sur les histoires de retraite, moi, j'ai pas envie de bosser 2 ans de plus, je le dis très, très clairement. Enfin, je sais pas si j'ai envie, en fait. Je sais pas si je serai dans l'état à 62 ans de bosser jusqu'à 64. Mais la réalité, c'est que moi, mes parents, ils vont vers 90 ans. Ils vivent de plus en plus longtemps et c'est une bénédiction. Et on va tous vivre plus longtemps. Et ça, c'est une grande joie. Que grâce à l'innovation, on vit plus longtemps et on vit mieux. Et c'est génial. Et donc, pour financer tout ça, il faut un peu travailler plus. C'est normal. Enfin, on ne peut pas se dire je vais faire des études jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis ensuite, donc, en fait, je ne travaille pas pendant 30 ans. Ensuite, je bosse. Je prends ma retraite à 60 ans. Donc, pendant 30 ans, je bosse. Et ensuite, jusqu'à 90 ans, je ne bosse pas. Donc, il y a 60 ans. Sur 90 où je ne vais pas travailler, qui paye? C'est le sujet, qui paye. Moi, je pense que ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet de retraite. D'ailleurs, tous les autres pays voisins bossent plus longtemps que nous. C'est un sujet de tableur Excel. C'est horrible à dire. Et après, il y a des sujets à traiter qui sont des sujets de pénibilité et compagnie qui sont importants. Il y a des gens qui refont les travaux dans la rue, juste à côté du studio. J'en ai vu sous la pluie. C'est sûr qu'eux, ils vont avoir du mal à travailler longtemps. Donc il faut prendre en considération cette chose-là. Mais ça, c'est un sujet... La France, c'est un petit pays. Hein. C'est 70 millions d'habitants, tout mouillé, qui est formidable, qui a plein de qualités. Mais il y a ce sujet d'acquis sociaux, dont certains sont précieux, il faut les garder. Et puis d'autres, où il faut accepter de légèrement pivoter. Et ce qu'il faut surtout, moi, ce qui me stresse le plus en France, c'est l'éducation, moi. L'éducation, c'est-à-dire que dans les classements PISA, s'effondrer et trouver des gamins qui ont le bac, mais qui ne savent pas compter, qui ne savent pas une table de multiplication après 18 ans, qui ne savent pas conjuguer, c'est chaud, quoi. C'est difficile. Et là, moi, j'ai une vraie inquiétude parce que ce qu'il nous faut, je pense que la période actuelle, c'est la meilleure période pour des ingénieurs, la meilleure de tous les temps. Parce qu'on va investir dans l'industrie, il y a de l'innovation technologique partout, il y a des besoins. Pour trouver des solutions au climat, il faut des ingénieurs. Ben, ils seront marocains ou tunisiens ou d'ailleurs, ou indiens, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les grandes boîtes maintenant ne sont pas toutes dirigées, mais il y a plein de patrons indiens. Mmh. Ils sont formidables, on va les chercher où il faut. Mais ce serait bien qu'il y ait un peu aussi des Français. Et les Français ont été, à une période, quand on était gamin, les ingénieurs français étaient les meilleurs du monde. Voilà. Bon, donc il faut se battre sur ces sujets-là. Voilà, je ne veux pas faire de politique parce que, en fait, tu vois bien mon sujet. Moi, je suis partagé. Évidemment, on a tous envie de bosser moins et de profiter de la vie. Mais la réalité, c'est que l'enjeu, il est sur la technologie. Les Américains l'ont compris, ils mettent de l'argent sur la table. Ils ont compris qu'il n'y avait pas de sujet de frontières. C'est-à-dire qu'un type qui est né à Bombay, je parle à l'ancienne, à Mumbai, c'est super. Si c'est le meilleur du monde, c'est génial. Il vient chez nous. Et puis ça fait des Satya Nadella chez Microsoft, le patron d'IBM. Ça fait dans tous les secteurs. Et donc, nous, on doit arriver là-dedans. Si on doit parler de la France, voilà. C'est mon point de vue. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement, travaille pas mal sur ces sujets-là, en tout cas. Essayer de créer de l'attractivité et faire avancer le système. Mais au niveau éducation, il y a du boulot parce qu'on sent bien que ça décale. Et après, c'est des sujets généraux. C'est sur une génération qu'on bâtit de l'excellence. Donc là, il est temps de repartir. Quand des options de mathématiques ont été supprimées pendant quelques années, là, on pouvait au lycée ne plus faire de mathématiques. Là, sous Blanquer, là, moi, je suis devenu fou quand j'ai appris ça. Il faut faire des maths. Il faut que les gamins fassent des maths. Tout le monde n'est pas bon en maths, mais il faut que celui qui soit bon en maths, on lui donne la chance de devenir ingénieur, d'aller dans une école d'ingénieur et puis de faire l'innovation du futur comme tel qu'on l'a adoré prendre le TGV à une époque. Maintenant, on se plaint que des TGV qui ne sont pas à l'heure. À l'époque, on était fiers d'avoir ces beaux trucs orange qui allaient à 300 km/h. C'était la fierté de la France. Mmh. C'est ça le bonheur. Et on a toujours une excellence. Hein. Airbus, nous, on investit dans Airbus. Airbus, quand même, a mis une pâtée ces dernières années à son seul concurrent au niveau mondial, qui est Boeing. Voilà, donc c'est ça l'équilibre à avoir. Et pour revenir sur l'histoire des États-Unis, donc ces schémas de recréer de la production dans les pays occidentaux, le friendshoring, on accepte de produire en Allemagne, le reshoring, donc on va déplacer de la Chine vers l'Inde, par exemple, c'est Apple qui demande à Foxconn, un chinois, son fournisseur, de produire en Inde, parce qu'il y a eu quand même un moment un peu de stress lié au Covid. Et puis, on va se retrouver dans un schéma de séparation en deux, ce qui crée un peu d'inflation. C'est-à-dire que c'est fini le truc facile, quoi. Où, en gros, on trouverait toujours un Chinois un peu plus dans les terres qui produirait encore moins cher. Voilà, donc ça crée un nouvel ordre mondial. Et puis, il y a aussi, évidemment, la fin, je crois, c'est clair, d'une certaine insouciance, pour le coup, mais insouciance par rapport à cette séparation Est-Ouest, dont on l'a vu avec l'Ukraine, on s'est rendu compte qu'il faut fabriquer des armes, c'est moche, mais on est obligé. Donc d'ailleurs, on l'a vu dans les fonds ISR, là, responsables, tout d'un coup, les armes deviennent responsables, alors qu'elles ne l'étaient plus. Bah oui, parce que si on ne met plus d'argent sur la table, on va rapidement parler russe, quoi. Donc notre chef s'appellera Poutine et on ne les lira plus, quoi. Donc là, il y a un vrai mouvement. Et puis les Américains, ils mettent en place dans les hautes technologies, l'interdiction d'exporter, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, des chips vers la Chine. Et ils mettent beaucoup d'argent sur la table, 52 milliards le CHIPS Act. Hein, il y a 40 milliards pour la manufacturing et 12 milliards pour ce qui est de la recherche. Donc ils mettent de l'argent sur la table. Donc il y a une guerre qui se fait sans armes, pour le coup, pour garder le leadership technologique. Donc ça, c'est spectaculaire. Et puis, l'année dernière, boursièrement, tout ce qui est tech était effroyable. On a souffert. Là, moi, de l'incroyable essor de l'intelligence artificielle, j'ai écouté le cofondateur de ChatGPT, d'OpenAI, à Austin. C'est une application, elle a eu 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Alors, TikTok, c'était 6 mois, pour comparer. Et Facebook, c'était 4 ans et demi pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Donc, en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs. Et là, on a quand même un truc qui est intéressant, c'est que Moi, Metaverse, je savais pas trop, je sais pas trop, je sais toujours pas trop si on a envie d'y aller. On a eu des équivalents qui ont plutôt disparu. Mais en revanche, je sais pas. D'ailleurs, en général, je ne sais pas. Et puis, mais je suis bienveillant. Et mais là, sur ChatGPT, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que ces systèmes d'intelligence artificielle vont avoir un effet pas très loin de celui des robots dans l'industrie, mais chez les cols blancs. Donc, c'est-à-dire que pour du rédactionnel, c'est assez génial. Enfin, je ne sais pas si tu as essayé. Oui, moi, j'invite tout le monde à essayer parce que c'est rigolo. Moi, j'ai écrit un poème avec du rap comme ça en ChatGPT. Alors, ce qu'a dit un futurologue là, à Austin, et je trouve ça assez vrai, c'est un mauvais assistant à ce stade. Voilà. Donc, ça ne va pas remplacer l'homme. En revanche, l'homme qui a de l'intelligence artificielle avec lui, par contre, est un excellent concurrent. Parce que si tu as à côté de toi le truc qui te fait le débroussaillage et que tu vas corriger pour les erreurs, donc tu mets 10 stagiaires, bah tu as ChatGPT, ça te fait des 10 stagiaires, et là, tu as une force de frappe très importante pour les cols blancs, pour la création. Moi, j'écris une lettre toutes les semaines avec un podcast. Ah, il y a une partie qui pourrait être faite par ChatGPT. Je pourrais gagner beaucoup de temps. Je pourrais juste corriger. Et puis ensuite, à la limite, avec une voix artificielle, je pourrais tranquillement, plutôt que de rédiger ça le dimanche soir, je regarderais la télé comme tout le monde. Et le lundi matin, ce serait enregistré directement. Et j'aurais juste comme boulot d'aller me faire un petit café à la machine en discutant de mon week-end avec mes collègues de bureau. Tu vois le truc? Ou de faire quelque chose de plus productif. Et là, il y a une tendance très forte qui va faire de la traction aussi sur l'univers des composants, l'univers du cloud aussi, qui est gros, parce que c'est un gros utilisateur de capacité de calcul et de stockage. Et donc, on voit qu'il y a une relance, en fait, de cette dynamique tech. Alors, évidemment, le tech, c'est extrêmement large. On voit les PC, là, Apple, on annonce moins 40% de Mac, parce qu'on en a tous acheté, encore une fois, en confinement. Maintenant, il faut attendre une nouveauté pour acheter. Et la nouveauté, elle n'est pas au rendez-vous, a priori, à moins qu'il y ait une annonce spectaculaire. Mais fondamentalement, voilà, il y a de l'attraction dans ces domaines-là, et ça, c'est intéressant. Donc, moi, ce que je dis en synthèse, c'est que, et c'est là que j'aimerais bien donner ce message aux gens, c'est il y a de l'innovation partout, elle n'est pas arrêtée. Il y a un enjeu climat qui est adressé maintenant aussi par les Américains et il y a des solutions. Donc, il faut être optimiste sur ces choses-là. Et d'ailleurs, en France, on essaie de nous imposer un pessimisme vis-à-vis du climat. Non, il faut être optimiste parce qu'il y a des solutions technologiques. Il y a des solutions technologiques à tout, y compris au problème de l'eau. Il y a des pays qui ont des déserts et ils arrivent à faire pousser des fruits et légumes en plein désert parce qu'ils ont la désalinisation et l'irrigation. Donc, il faut arrêter d'essayer de penser que le monde est en décroissance. Et moi, je crois qu'on est dans un monde d'abondance. Voilà, je serais puni par notre président. On est trop long, je suis trop long, je suis trop bavard.
Non, non, c'était la question sur justement ce monde fini ou pas, c'était ma dernière question. Mais juste avant, je voulais revenir sur SVB. Tu as parlé un petit peu. Est-ce que tu penses qu'on a frôlé la correctionnelle ou quoi qu'il arrive, une crise bancaire, c'est... plus d'actualité, puisqu'on a compris qu'il y avait le retour de la planche à billets et que, quoi qu'il arrive, on sauvera tout le monde. Si on n'a pas d'inimitié avec son concurrent CF, ce qui s'est passé en 2008, voilà. Et je fais un parallèle avec Crédit Suisse, où moi, je me suis dit comment les Suisses peuvent planter Crédit Suisse. Je me doutais qu'il allait avoir une intervention, comme UBS avait été sauvé il y a, je crois, 2010, je ne sais plus, je dis peut-être des bêtises. Voilà, il y a eu des rumeurs comme quoi, ce n'est pas des rumeurs, mais que Deutsche Bank va très mal et que certains hedge funds attaquaient les banques plus ou moins fébriles dans chaque pays. Donc, on vise, pour la France, ça serait plutôt Société Générale. Est-ce que tu penses tu parlais de signe noir à un moment dans ta présentation. Est-ce que tu penses qu'on s'est fait peur, on a joué à se faire peur, que de toute façon, le papa banque centrale allait régler ça et sortir le chéquier? Ou est-ce qu'il y a un vrai sujet sur les banques aujourd'hui?
Alors, moi, je suis partagé parce que je pense que les régulateurs étaient excellents et rapides.
Donc avec un distinguo, régulateur Europe versus une régulation
aux US, modifiée par incroyablement Trump. Rapide. C'est que, ouais, on peut dire. Alors, on peut rentrer dans les détails de la régulation. La réalité, c'est la régulation. Quand il y a une crise majeure, il faut agir. C'est-à-dire qu'on ne lit pas le papier, l'alinéa 3 de telle page, on agit. Et donc, on ferme la banque. C'est ce qu'ils ont fait sur SVB, ils ont fermé la banque. Moi, j'étais à Austin, au Texas, et j'ai écouté des gars qui avaient leur compte chez SVB. C'est intéressant quand on est là à écouter, ouais. qui disaient, putain, j'espère qu'on va me rembourser, parce que je ne peux pas payer mes gars à la fin du mois. Ok, donc ça, c'est concret. Bon, ce qu'a fait le régulateur, c'est qu'ils ont fermé la banque, et puis le lundi, ils ont dit, les déposants sont remboursés. Donc, l'actionnaire sera puni, zéro. Par contre, les déposants sont remboursés. Alors, ça, c'est une question, mais c'est une question, on peut passer trois heures à en parler. Est-ce que c'est une nationalisation des banques ? Un peu, quelque part. Parce que toi, quand tu vas déposer, tu choisis une banque par rapport à l'autre, tu choisis le tarif, mais tu choisis aussi une certaine sécurité. Donc, si en fait, il n'y a plus d'aléas, toutes les banques ont le même service. Un dépôt, c'est un dépôt. Donc, on peut se poser cette question-là. Moi, je trouve très bien que les actionnaires soient punis, parce que les actionnaires étaient mauvais. Je pense que le régulateur a été excellent aux États-Unis en allant vite, en cherchant des solutions, en trouvant des solutions de groupe. D'ailleurs, quand derrière, il y a eu First Republic Bank là, a été attaqué. Bon, bah, c'est JP Morgan, il y a un groupe qui sont venus à la rescousse. Ça a plutôt été mal pris, enfin moyennement bien pris. Mais globalement, on a trouvé des solutions très rapides. C'est-à-dire qu'on n'a pas joué le jeu de 2008. On n'est pas reparti dans une espèce de laisser-filer et jouer l'aléa moral du défaut. En revanche, là, on peut se poser des questions. C'est est-ce que la réglementation... Concernant ce qu'il y a de pire dans une banque, c'est le bank run. Les gens viennent prendre le dépôt et se partent. Et là, c'est très rapide. C'est ce qui s'est passé sur Crédit Suisse. C'est comme un support saoudien qui commence à dire bah, finalement, on ne rajoutera pas un dollar pour soutenir la banque. Les gens se barrent. OK. Bon, il y a eu plein de scandales au Crédit Suisse. Donc, au bout d'un moment, la banque était quand même assez fébrile à ce moment-là. Il faut le reconnaître. Hein. Mais la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Et là, le régulateur, peut-être sur l'analyse, en tout cas, de la liquidité ex ante. Donc avant que ça se passe, a plutôt été pas bon. Ce regard, moi j'ai fait de l'analyse entre 96-98, je faisais du risque interbancaire au CCF. Et la Fed avait un modèle, ça s'appelle CAMELS, Capital, comme un chameau, mais au pluriel, Capital Assets Management Earnings Liquidity. Le capital de la banque, est-ce qu'il y a assez de fonds propres, la qualité des actifs, la qualité du management, les résultats, la liquidité. Donc on parle vraiment, c'est l'épreuve du moment. Et sensitivity, c'est la sensibilité à la hausse des taux. On est en plein dans ces problèmes-là. Donc ce modèle, il existe. Mais est-ce qu'il a été mis en place ? Est-ce que ça a été suivi autrement que par un tableur Excel ? Parce qu'aujourd'hui, on est régulé de partout, notamment nous, les financiers, bah, les CGP, c'est le cas. On a plein de régulations. On nous fait, c'est le tick box regulation. D'ailleurs, on doit répondre à est-ce que t'es bien ? Je ne sais pas si au niveau de la SVB, il y a un type qui, objectivement, au niveau des autorités de tutelle, a regardé si la liquidité de la banque était au rendez-vous et si ex ante, il allait leur donner un petit coup de téléphone en leur disant bah, les gars, vous avez du papier finalement qui est sensible à la hausse des taux, il y a une hausse des taux, comment vous faites ? Et donc, on est dans un sujet d'un régulateur qui est très réactif, ça c'est formidable, et puis en même temps, bah, d'un changement aussi de règles qui est lié un peu au côté zapper hein, des investisseurs. Très rapidement, on peut passer de l'argent d'un côté à l'autre sur un doigt, hein, sur une application. Maintenant, on met d'une banque à l'autre. Donc voilà, donc sur le système bancaire, je pense, moi je ne suis pas incroyablement inquiet sur le sujet. Alors évidemment, je dis ça, et puis si Deutsche Bank saute... Après, il y a des gens qui s'amusent à attaquer des banques. C'est-à-dire qu'une banque qui a eu des petits soucis, une mauvaise réputation, bah, on adore, enfin il y a quelques hedge funds effectivement, qui adorent éventuellement lancer une réputation ou lancer un petit papier de recherche plus ou moins documenté, et puis un peu appuyer sur le cours. Il faut se méfier de ces choses-là. À un moment, on a dû interdire le short sur les banques, hein, donc, parce que fondamentalement, c'est dangereux. La banque, ça rappelle une chose, c'est que la banque, ce n'est pas un business comme les autres. Et dans la banque, il y a ce sujet de la confiance. Si tout le monde a peur, tout le monde se barre. Maintenant, comme on a garanti les dépôts, il y a un sujet. Et puis, il y a un autre sujet, c'est Suisse. Alors, chaque sujet est différent, mais sur la Suisse, il y a un sujet qui fait du mal à mes amis qui achètent des obligations. C'est que bah, l'actionnaire, on a divisé ça par trois, de mémoire, oui, on a divisé par trois. Bon, bah, donc il a souffert. Le déposant est garanti. Mais par contre, l'obligataire, une tranche d'obligataire, les AT1, les dettes subordonnées, bah, elles, ils ont été scalpées, ils n'ont rien eu, zéro. Alors tu te dis, mais normalement, l'actionnaire, c'est le dernier qui doit être remboursé, l'obligataire passe avant. Bah là, en un week-end, on a décidé que ce n'était pas comme ça. Donc ça crée un aléa, notamment sur le financement des banques, sur la gestion du financement des banques, qui fait que bah, la dette subordonnée, est-ce que c'est intéressant d'avoir de la dette subordonnée ou pas ? Est-ce qu'on a envie d'y retourner si on est, celui qui souffre le plus en cas de crise ? Donc on a ouvert un certain nombre de sujets. Mais je crois que le régulateur, en tout cas, va vite quoi, par rapport à 2008. Et ça, c'est super. Après, la composante, la dérivée qui est difficile, c'est que je crois que l'économie, elle marche bien quand il y a des flux. Et s'il y a un credit crunch, s'il n'y a plus de crédit, dans un contexte en plus où les taux ont augmenté, bah, on a un risque effectivement d'accélérer une entrée en récession si tout le monde s'assied sur son argent. Mais c'est un autre sujet.
Ok, c'est très clair. Question qui me taraude, mais là, ce n'est pas la classe d'actifs que tu travailles. C'est notamment sur les obligations d'État et le fonds euro. Est-ce que tu penses, pareil, que c'est un peu certaine, une petite musique qu'on entend, qui peut avoir un risque, notamment avec la remontée de taux, que certains États, notamment européens, fassent faillite? Et qu'il y a un risque, et c'est aujourd'hui, je me demande si c'est pas plus de la pédagogie que nous, CGP, devons faire aux clients. Disons que, attention, la garantie, le fameux fonds en euros, est-ce qu'elle va être réelle ou pas? Et il y a quelqu'un qui me disait, notamment sur l'immobilier ou sur des actions, qu'au final, je préfère, finalement, tu parlais d'Airbus, avoir peut-être mon argent chez Airbus que dans un pays européen, sur une dette souveraine, qui peut me dire du jour au lendemain, merci, mais je ne vous rembourserai pas. Parce que les taux ont tellement augmenté que je n'ai plus la capacité de...
Moi, c'est très facile de faire peur aux gens. C'est très facile de leur dire...
Et surtout que ce discours, pour être totalement avec vous, vient d'une partie qui a peut-être intérêt à mettre en avant certaines classes d'actifs par rapport au fonds en euros. Donc, qu'est-ce qu'il y a une objectivité?
Il y a un moment où il faut être responsable. Il faut être responsable quand on a des... moi, je suis dans une toute petite société de gestion, mais en tant que dirigeant de société de gestion, il faut être responsable. On n'est pas dans un sujet d'une faillite d'un État de taille significative en Europe aujourd'hui. Alors peut-être que dans un an, je ne sais pas, il y a une guerre majeure, je ne sais pas, où il y a une percée russe au travers de la Pologne, je sais, c'est une autre histoire, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet. Donc,
par exemple, est-ce que l'Italie, si les taux montent à 6, est-ce que ça ne va pas sauter?
Ça sera tendu, mais on a mis en place un mécanisme justement anti-fragmentation l'année dernière pour éviter une explosion de la zone euro. Donc on met en place des dispositifs, parfois ex ante et parfois ex post. Donc on préfère une anticipation. D'abord, il y a ça. Après, il y a le problème sur le fonds euro. Le fonds euro, il a une mécanique assez particulière où justement, s'il y a l'équivalent d'un bankrupt, c'est les gens tirent tous en même temps leur argent et qu'il y a une hausse des taux, c'est difficile. Mais la réalité, bon, en Italie, il y a eu un cas là, de compagnie d'assurance qui a sauté le mois dernier.
C'est pour ça que
je
parle d'Italie.
Mais bon, après, je ne sais pas, les gens qui sont dans les belles grandes compagnies que je n'ai pas envie de citer parce que la plupart sont des très grands établissements bien gérés en France.
Chez qui on peut retrouver Atimis Gestion.
Ouais. Enfin, je peux citer AXA, Generali, Cardiff, Swiss Life sont des gens très bien qui gèrent bien des opérations. Je vois pas. Enfin, moi, j'en ai du fonds euro à titre perso, donc je suis pas en stress sur du tout là-dessus. Quoi, c'est pas mon problème. Après, le marché, il peut dire. Par exemple, sur la dette d'État, il y a un an tout juste, on a fait un show ensemble. On a parlé des cryptos. Moi, pareil, j'avais pas d'avis. J'ai mon côté un peu anard, dire les États sont mal gérés. Effectivement, mettez de l'argent dans les cryptos, c'est pas idiot. Et puis en même temps, tel yo-yo et on ne sait pas qui porte quoi, que je ne savais pas trop. Mais en réalité, tout d'un coup, la crypto est passée de 18 000 à 30 000. Enfin, le Bitcoin est passé de 18 000 à 30 000. Donc, il y a une partie des gens qui se disent, moi, j'ai plutôt intérêt à aller chez des cryptos que d'acheter le reste du monde. Mais ils achètent de l'or aussi, l'or a atteint les plus hauts. Donc, mais il ne faut pas véhiculer ce genre de message. Enfin, je veux dire, on peut se faire plaisir, mais je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. Enfin, je ne vois pas cette menace aujourd'hui. Enfin, c'est un vrai sujet. Donc non. Voilà. La réponse est non.
Okay,
Et je pense qu'en plus, on a des mécanismes aujourd'hui. Les gens sont réactifs. Les gens qui dirigent les États européens connaissent bien les marchés. Ils connaissent la composante, je dirais, il ne s'agit pas de faire de bêtises, mais bon, un basculement politique, c'est sûr que par exemple la France a une révolution lundi, on a un autre sujet, mais voilà, il faut venir dans ce type de réflexion pour se dire le truc va exploser. Aujourd'hui, les institutions sont réactives, elles sont existantes, elles fonctionnent bien, on l'a vu sur deux crises majeures quand même bancaires, en un mois, dont on ne parle plus d'ailleurs. À part toi, tu es le seul assez responsable à ressortir le dossier maintenant, mais tout de suite on est passé à autre chose. Donc faut pas remuer ce genre d'inquiétude. Je suis plus inquiet sur l'immobilier, tu vois. Sur l'immobilier, moi, en Europe, je vois ce qui se passe aux États-Unis, où on laisse flotter, en fait, il y a plus de volatilité dans l'immobilier. Notamment, moi, je suis un peu inquiet aux États-Unis sur l'immobilier commercial. L'immobilier commercial, il y a des tours qui se construisent. À New York, tu as des tours qui se construisent tout le temps. Et le soir, alors maintenant, les journées se rallongent, mais le soir, elles sont bien vides. Et on pouvait se refinancer pour zéro quasiment, donc on pouvait attendre d'être rempli. Bon, maintenant les gens ont du mal à retourner au bureau, le télétravail est passé par là. L'économie ralentit, moins besoin de bureaux, il y a des annulations de projets. Amazon a supprimé à Atlanta son deuxième headquarter. Là, bon, les gens sont plutôt en train de serrer les coûts. L'immobilier commercial, ça va être dur, c'est dans un environnement taux plus élevé.
Et tu vois, et pourtant, c'est des débats qu'on a entre copains CGP, mais tu as des sociétés de gestion là, en SCPI qui ont collecté 300 millions sur un trimestre.
Ouais,
c'est...
Mais moi, je sais pas. En France, c'est particulier, c'est un marché particulier. Hein, oui, ça dépend ce que tu achètes. Hein, parce qu'il y a déficit de logement, par exemple. Donc,
Là, je parlais sur
du bureau.
Pas forcément du bureau, on va dire de la SCPI un peu diversifiée, quoi.
Il faut faire très attention. Il faut être diversifié. Tu connais, si tu fais ça avec tes clients tous les jours, Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, sur ces moments où il y a un engouement incroyable en disant c'est de la pierre, etc. Et avec des... enfin, on est dans un moment, moi je crois, où il doit y avoir un ajustement entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier sont objectivement encore très élevés, ils n'ont pas corrigé, et les acheteurs n'ont pas d'argent parce que pour faire de l'immobilier, on s'endette. C'est un principe depuis toujours. Et cette dette coûte plus cher. Donc on arrive à un moment où il faut un ajustement. Donc ça, c'est naturel.
Et que les rendements nets arrivent quasiment au niveau du sans risque.
Et donc on va se retrouver dans un schéma où certains pays, la Suède, c'est moins 16%, je crois, hein, depuis le plus haut. Donc, le marché immobilier global. Donc, il va y avoir des ajustements. Donc, ce côté, la pierre, ça marche tout le temps, ça marche pas tout le temps. Rien n'est garanti, tu l'as dit tout à l'heure.
Justement, sur ça, moi, je trouve que c'est plutôt sain de réapprendre que, justement, parce qu'on avait l'impression, à un temps certain, que la pierre était sacrée du nouveau capital garanti. Voilà, tu as deux totems, tu as la pierre, valeur refuge, et le capital garanti, quand tu discutes avec des clients, on va dire, des clients lambda et qu'on croise tous. Après, donc du coup, effectivement, sur l'immobilier, la notion, c'est le logement, je pense que c'est encore différent. Parce que moi, j'entends dire que c'est trop cher, ça va péter depuis que je crois que je suis étudiant.
Bien sûr.
Voilà. Non, elle est peut-être un peu après, quand je suis sorti d'études. Mais c'est ces questions-là. Et effectivement, sur la performance des actions, on s'aperçoit que malgré le discours un peu, on peut dire, noir, et que je pense qu'il y a beaucoup, et je tape un peu sur les gens qui font du contenu financier, patrimonial, c'est sûr que si je fais une superbe vignette YouTube, le marché action, effondrement, sortez votre argent de l'ASOG, de Deutsche Bank, c'est fini, je ferai beaucoup plus de vues que si je vous dis non, il n'y a rien à voir, et continuez à acheter du Air Liquide, comme Mamie a fait avant vous, du L'Oréal et du Hermès.
C'est bien Hermès, ça a publié hier plus 22% de chiffre d'affaires, ça marche super bien, c'est voilà. Extraordinaire.
Sauf que je pense que je ferai cadu. Donc il y a aussi ce phénomène, malheureusement, que la peur fait cliquer.
Ben, je ne sais pas, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Mais tu le sais très bien, puisque tu gères très bien l'argent de tes clients. Et la réalité, c'est qu'il y a le spectacle et puis il y a la gestion. Et l'épargne. Donc le spectacle, c'est sympa, effectivement, c'est du spectacle. Et puis derrière, est-ce que c'est quali? Est-ce que dans le temps, est-ce que tu fais de la performance pour les clients? Dans les composantes de faire de la performance, il y a une saine diversification, une gestion du risque. Il y a le choix de multiclasses d'actifs. Donc c'est pas blanc ou noir, c'est pas tout sur les actions, tout sur le fonds euro, c'est pas tout sur l'immobilier. C'est une saine diversification. Il y a certains moments, un petit peu finalement en 2020, où tout d'un coup les gens se sont mis à acheter des boîtes américaines en ne connaissant pas le nom, en trouvant le nom sexy, et puis de toute façon on faisait plus de 50%, c'est des excès. Et là, l'argent est venu sur, nous on en a profité hein, quelque part.
Une belle porte de saloon.
Et puis il y a d'autres moments où tout le monde va faire de la pierre en oubliant que les taux montent et que c'est juste des composantes basiques. Hein, les taux montent, en plus si on entre un peu en récession, les gens ont moins de moyens. Donc ça va être plus compliqué, c'est normal. C'est du bon sens, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas mettre un petit peu d'argent, un petit billet dans une SCPI actuellement pour prendre date et puis dans une composition de long terme, parce que peut-être qu'à court terme, ça n'a pas ajusté ou l'ajustement sera ponctuel et conjoncturel et puis la gestion elle-même de la SCPI sera de très bonne qualité. Donc c'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ces problématiques de buzz. D'ailleurs, je trouve que la presse française papier, qui est un peu d'ailleurs détruite, mais moi j'aime bien, hein, Elle est assez mesurée, exactement. Quand il y a eu les cryptos, bon, bah, il y avait les avantages, inconvénients, passer par quel intermédiaire, qu'est-ce que c'est, attention, voilà le risque. Alors que, effectivement, sur le buzz, enfin, sur
Il y a une vraie discussion au Sénat, c'est le problème, c'est est-ce que ces gens-là ne sont pas remplacés, on va me mettre dans l'eau peut-être, mais par des influenceurs qui ont problème de vente du bright content. D'ailleurs, je fais un appel. Si jamais il y a un sponsor qui veut au moins financer le coût de la production du podcast, ça a grand plaisir. Et qu'en fait, tu vas prendre un sponsor et c'est normal. Il va te demander du CPM, du coût pour 1000.
C'est des métiers régulés. Donc là, on a vu, je crois, c'est Nabila qui a été attrapé par la NEF.
Et que là,
c'est très bien, mais le régulateur te fait son boulot.
Le Sénat commence parce que je ne sais pas si t'es souvent sur Twitter ou des choses comme ça, où aujourd'hui on voit des gens qui parlent de finance, de crypto, de manière et qui lancent des vagues d'informations. Ouais, et que c'est très compliqué.
Ouais, je sais, mais moi je suis pour la liberté et la liberté sous contrôle. Donc c'est bien que de temps en temps on puisse se lâcher dans un domaine. Mais le régulateur est là. Des histoires d'influenceurs qui sont rattrapés, notamment pour vendre des cryptos. Le régulateur a fait son boulot. Hein. Ils ont pris un gros coup de massue et ça revient dans le rang. Et c'est pour moi, pour le moment, et j'espère que ça va continuer comme ça, ça reste un épiphénomène. C'est-à-dire que combien de... Enfin, il n'y a pas une masse, il n'y a pas des milliards qui sont allés sur les cryptos en France à cause d'influenceurs sur TikTok.
Oui, on est d'accord.
Chaque personne plantée est un drame. Je suis vraiment désolé pour ces gens-là. Et je trouve, moi, c'est pas pour faire le faillot vis-à-vis du régulateur, mais je trouve qu'ils travaillent plutôt bien, qu'ils sont assez réactifs. Par exemple, il y a un domaine qui est un capharnaüm complet, si tu veux, du buzz, et c'est l'ESG, hein, l'ISR, enfin tout ce qui est l'investissement socialement responsable, où l'Europe crée des régulations, mais que notre régulateur français avoue avoir du mal à décrypter, à suivre. Ce qui fait que tout le monde se décrète vert tout en ayant du pétrole joyeusement. Enfin, il y a plein de gens qui font ça. On a un label qui attend une nouvelle réglementation depuis 18 mois. Heureusement que l'Inspection Générale des Finances a dit qu'il faut changer le système du label français ISR parce que ça ne veut rien dire. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Hein. Flécher de l'épargne, ça veut dire que la flèche est dans une direction bien définie. Donc, dans ce capharnaüm, l'AMF récemment a dicté un certain nombre de points pour simplifier, dans la mesure du possible, en attendant l'Europe, le système. Et moi, je trouve que l'AMF, sous contrainte d'une régulation, de tas de gens qui ont envie de truander, qu'il faut arrêter, évidemment, travaille pas mal, en fait. L'innovation financière, l'AMF, ne la bloque pas. Les entrepreneurs peuvent lancer des affaires dans la finance. Il y en a moins en ce moment, parce que c'est plus difficile depuis 2 ans dans les entreprises traditionnelles de gestion. Mais la France a comme honneur, en tout cas, de pouvoir lancer des acteurs qui ont pu grandir. Moi, j'ai participé à l'aventure financière de l'échiquier. C'était fantastique. Si, en France, il y avait eu les mêmes contraintes qu'en Allemagne, c'est-à-dire un sponsor et un million de fonds propres qui est inatteignable par l'entrepreneur, bah, il n'y aurait pas eu de Carmignac, pas de financière de l'échiquier, pas de Richelieu. Bon, Richelieu, ça a été une histoire un peu plus difficile, mais pas de Tocqueville, des histoires comme ça, pas de Tikeo, qui est une affaire fantastique. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et donc, moi, je pense que le régulateur est là pour nous aider. Nous, en tant qu'intermédiaires, il faut aussi pas faire n'importe quoi et pas dire n'importe quoi. Il faut pas non plus agiter des sirènes de produits miracles d'un côté ou la fin du monde de l'autre côté. Et sous ces contraintes-là, on doit pouvoir avancer. Ouais.
Ok, c'est très clair. On est un peu dépassé. En 2 mots, on revient sur cette notion d'abondance.
Ah, ça me plaît, ça.
Pourquoi, effectivement, puisque c'est l'idée aujourd'hui, surtout pour un gérant qui est plus sur des fonds croissance. Aujourd'hui, on nous dit, si on écoute certains écolos reçus régulièrement dans les matinales des différents médias, voilà, on n'aura plus de croissance. Et comment aujourd'hui faire de la performance pour un gérant action dans une société qu'on dit peut-être décroissante ? Ou voilà, comment trouver des relais différents pour dégager de la perf ?
Donc déjà, quand on commence par dire on est dans de la décroissance, moi je suis pas d'accord. Donc moi je pense qu'on est dans un monde d'abondance. Je pense que de l'eau, il y en a partout, c'est la planète bleue. Des technologies pour désaliniser l'eau, il y en a. Depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, on sait faire de l'irrigation. Le prix de l'énergie solaire a divisé par 10 ces dernières années. Donc de l'énergie, il y a certaines zones où il y en a partout. C'est de l'énergie décarbonée. On a des technologies aujourd'hui pour faire de la capture carbone à partir de cette énergie pour la transformer en gaz, par exemple. Et on avance. La fusion nucléaire, on a une innovation absolument fantastique en décembre où 1 plus 1 vaut près un pouillème de plus. Et donc, c'est l'ouverture d'une énergie abondante et illimitée. Évidemment, il faudra la contrôler. Voilà, les techniques de production alimentaire, si on a envie de les laisser se déployer, eh bien, on a de quoi nourrir toute la planète. D'autant qu'en plus, la Chine est en décroissance de population. On est à 1,4 milliard dépassé par l'Inde. Et les modèles, maintenant, disent qu'on va plutôt stagner à horizon 2100. Donc, si oui, on était dans un monde...
souhaitent que les individus recommencent à faire
mais
des enfants.
A priori, ils ne s'y mettent pas, donc ils ont du mal.
Oui, parce qu'ils ont les mêmes contraintes d'immobilier cher.
Donc, on se retrouve dans un schéma où mon système, il ne marche pas. Si on monte à 20 milliards d'habitants, on est cuit. Là, on a le sentiment qu'on va plutôt stagner. Et on a une innovation technologique qui est au rendez-vous. Donc, ce petit discours de dire... et qui est super français. Alors, je ne sais pas pourquoi en France, peut-être un héritage chrétien. Moi, je suis chrétien. Donc, c'est très positif d'être chrétien, c'est être généreux, mais il y a un petit côté auto-flagellatoire. Donc, moi, quand je vais aux États-Unis, c'est vrai que l'année dernière, je te l'ai dit, d'ailleurs, il y a un an, quand je vais aux États-Unis, je dis, qu'est-ce qu'on souffre en France ? On fait faire l'effort. 70 millions d'habitants doivent porter toute la misère du monde, quelque part. Enfin, doivent porter tout le problème du climat mondial. Et c'est un peu ça. Hein. Ces gens qu'on entend dans les radios, en permanence, les gens du gouvernement, dans certains points, ils ont raison. La sobriété, c'est bien. Il faut être sobre, globalement. Mais à un point de mettre des disclaimers partout et des alertes partout, ça devient assez insupportable. Et puis, tu vas aux États-Unis, tu as des gros pick-up. Là, ils ont changé aux États-Unis parce que les leaders et le pognon est au rendez-vous. Hein, donc ça compte aux États-Unis hein, quand il y a un petit billet vert. Ils ont compris les enjeux climat. Ils ont aussi compris une chose que j'ai bien compris en écoutant aux États-Unis le patron de d'IBM qui expliquait en fait, une journaliste lui demandait dans une conférence pourquoi vous faites des serveurs vertueux et il expliquait tout simplement parce que si j'en fais pas, l'Europe ne me sera pas ouverte, c'est quand même un marché large. Donc le leadership européen, il peut être loué dans ce domaine-là, mais les Américains ont compris qu'il y avait un enjeu climat. Ils mettent 450 milliards sur la table. Il n'y a pas que du climat, hein, c'est l'énergie en général et puis il y a de l'investissement industriel comme on l'a dit tout à l'heure. Mais moi, je pense que là, les avancées technologiques permettent d'envisager l'abondance. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Politiquement, d'abord, il est beaucoup plus facile de faire croire aux gens qu'il n'y a plus rien, qu'on va tous mourir et nous noyer dans une espèce de vomi de pollution. De mettre sous pression un pays comme la France, quelque part, qui est un petit pays. À la limite, la solution ultime, c'est de fermer les frontières pour qu'on ne voit pas à l'étranger comment ça se passe. Je rappelle qu'en Chine, ils se sont rebellés contre les mesures Covid parce qu'ils ont vu, on leur expliquait que la pandémie était mondiale, donc c'était normal qu'on les enferme dans leur HLM. Alors que et quand ils ont vu à la télé la Coupe du Monde, ils ont vu des gens s'embrasser après un but et tout le monde faire la fête de tous les pays. Ils se sont dit, il y a un problème et ça a rouvert le pays. Donc, c'est sûr que si on se referme, nous, il y aura un problème. Je pense que les solutions d'interdit ne sont pas les bonnes solutions. Les seules vraies solutions, c'est les solutions technologiques. Interdire, je vais me faire des ennemis au gouvernement, interdire les vols intra-France de moins de 4 heures, ce qui est la tendance, hein, c'est ce qu'ils veulent, la prochaine étape, là c'est 2h30 pour des distances équivalentes, ce n'est pas une bonne solution. La bonne solution, c'est d'aider, donner un coup de main aux start-up, il y a des tests en cours, qui vont faire des vols avec des avions propulsés par l'hydrogène, enfin avec l'hydrogène. Donc ça, c'est une solution, c'est des solutions. La solution de dire on va tout mettre sur le train, qui est un monopole d'État qui fait défaut, hein, puisqu'il perd énormément d'argent. Alors, il a bien fonctionné, donc on a un petit espoir. Non, la solution, c'est de mettre des bornes électriques pour que les gens puissent charger facilement et être libres, indépendants. La solution, c'est de mettre des bus Macron à hydrogène partout. Donc, qu'il y ait des solutions avec de la compétition et des technologies qui permettent d'être propres sans qu'on ait un système d'État qui bloque tout et qui ne vit que d'interdits. Il faut autoriser des voyages en France en faisant attention, évidemment, à moins émettre. Les derniers avions d'Airbus, puisque ça sera finalement un podcast à la gloire d'Airbus, c'est 35% d'émissions en moins. Hein, il faut le savoir. Donc on nous dit, par exemple Jean Covici, que j'aime beaucoup, j'ai lu sa BD, elle est formidable. Hein, quand il nous dit on aura droit à l'avenir à deux vols dans sa vie, enfin deux dans la jeunesse et deux après dans une vie, moi je ne suis pas du tout d'accord. On va avoir des vols illimités. D'abord, si c'est des vols, moi j'accepte la limite, si c'est le monde entier est pareil, or ce ne sera pas le cas, c'est-à-dire que la Chine, ils continueront à voler, les Américains pareil. Et puis bon,
après,
en France...
Après lui, c'est, de toute façon, comme il n'y aura plus de pétrole, c'est mort. Et que l'hydrogène, il revert... Voilà, il balait ça d'un revers de la main en disant que ça ne fonctionne pas.
Oui, mais on va y aller. Ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Ouais.
C'est, après, je ne peux pas trancher le débat. Je ne suis pas ingénieur aéronautique.
Non, mais regarde, moi, il y a un magazine qui est super, ça s'appelle L'Usine Nouvelle. Tu lis L'Usine Nouvelle, tu regardes les solutions. Des solutions, il y en a partout. Les vols. Alors, pour l'instant, les vols, hein, ça, c'est des ATR-42 équipés de systèmes hydrogène, parce que c'est lourd, hein, comme système. Donc, ce n'est pas encore le vol transatlantique, mais on est sur des solutions qui s'améliorent en permanence. On va produire des fuels qui sont beaucoup moins. Qui sont plus vertueux, ça c'est une certitude. Donc on essaye, il faut que c'est pas binaire, c'est pas tout le monde à la rizière parce qu'on mourra tous, ça a déjà été testé. Là c'est un petit, moi je suis un peu anticommuniste de base, c'est-à-dire tout le monde à la rizière et avec une décroissance totale. Ou on continue à vivre comme qu'on est actuellement. Non, la solution, elle est complètement différente. D'ailleurs, ce n'est pas entre les deux. La solution est différente, c'est chercher des solutions technologiques pour un monde dans lequel les enjeux climat sont fondamentaux. Et ces solutions technologiques, elles existent, et en tout cas, on progresse énormément. Et la réponse, ce sont des mix. Et ce n'est pas des solutions uniques. Ce n'est pas le tout hydrogène, ce n'est pas tout nucléaire, ce n'est pas le tout éolienne. C'est un mix. La solution, c'est le mix. Et c'est raisonné, c'est important. Ce n'est plus la folie furieuse qu'on a connue des années 70, c'est sûr. C'est raisonné, mais de l'énergie abondante, il y en a. Il faut arrêter de se dire, on est dans un monde de décroissance, il n'y a pas d'énergie. Moi, je suis normand, il y a du vent.
D'accord.
Voilà. Et quand on va se promener en Afrique du Nord, il y a du soleil. Quand on va en Arizona, il y a du soleil partout. C'était d'ailleurs ce que Musk a lancé avec SolarCity. Hein, c'est se dire, on peut être autonome. Alors ça ennuie un peu les États. Ça ennuie un autre sujet. Je peux produire moi-même, quand je suis en Arizona, de l'électricité pour ma Tesla, pour circuler et pour ma maison. Voilà. Et parce que du soleil, là-bas, il y en a. Alors, toutes les régions ne sont pas concernées, d'où la notion de mix. Il y a des régions comme les nôtres où si on veut du courant la nuit, il vaut peut-être mieux avoir des centrales nucléaires. Et si on a la fusion nucléaire à horizon peut-être 2050, ça nous concernera moins nous, on sera très vieux, mais nos enfants auront une solution peut-être d'énergie illimitée, qu'il ne faut pas l'oublier. Et okay. J'ai pas parlé de santé, parce que dans la santé, vivre vieux, vivre mieux, on l'a vu avec l'ARN, peut-être que demain le cancer sera éradiqué. Pas demain, plutôt après-demain, mais horizon 2050, il y a des maladies qui vont disparaître. Il y a des solutions contre l'obésité, par exemple, qui est un mal du siècle pour les pays occidentaux. Donc moi, je suis très, très positif.
C'est ce que j'allais dire, que c'est vraiment la conclusion un petit peu de ce podcast, que ça soit, j'allais dire, un peu sur la philosophie de vie, de manière globale, comme on vient de faire en fin de podcast, ou de manière terre-à-terre, un petit peu sur les classes d'actifs, et notamment les actions, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut continuer à investir de manière raisonnée, et que l'allocation, la diversification, c'est toujours ça restera le graal de la gestion patrimoniale, et de pas tomber dans ce pessimisme qui est parfois fin pour moi avec certains. Je me demande, même si certains producteurs de podcasts ou de vidéos YouTube pensent vraiment ce qu'ils disent, et certains économistes.
Une manière de te différencier, c'est peut-être d'être positif.
Ah oui,
t'auras
oui,
peut-être moins de clics, mais t'auras pas les clics des gens négatifs qui veulent entendre cette petite musique. Et en tout cas, chez Atimi Gestion, d'abord, on investit en action. Quand tu investis en action, normalement, tu as un certain degré positif, hein, même si l'horizon est long et c'est 5 ans minimum, hein, c'est ce qui est recommandé. Et chez Atimi Gestion, tous les fonds thématiques que nous avons sont des fonds qui sont portés par de la traction sur des thèmes comme le digital, comme la réindustrialisation, comme les enjeux climat ou les enjeux de santé liés au vieillissement de la population, mais aussi à la notion de bien-être, la volonté des jeunes, les millennials, de faire du sport, de manger mieux, de vivre mieux. Et ça, c'est ce qui nous porte chez Atimi Gestion. Moi, j'y crois énormément.
Ok, mais justement, puisqu'on parle d'Atimi Gestion, il y a, je crois, pas mal de confrères et de consoeurs qui regardent et qui écoutent ce podcast. Comment ils font pour savoir s'ils veulent rentrer dans le détail, que quelqu'un de chez vous vienne les pitcher, leur expliquer votre gestion? Oui. Ils te contactent directement via LinkedIn,
Ouais, je suis partout. Et qui me contacte pas sur Instagram parce que c'est plutôt des photos. Ouais, c'est des photos sympas. Je crois que je suis en profil ouvert. Non, on est nous on a un site internet hein, athymis.fr, c'est très simple, athymis.fr. Il y a un petit lien pour demande de contact. On est très communicant, j'écris une lettre hebdo le dimanche soir qu'on valide ensemble en comité d'investissement le lundi. Il y a un podcast comme ça. Alors j'ai pas de micro, c'est pas aussi sophistiqué, on en parlait tout à l'heure. C'est sur mon Mac hein, mais le micro est bon pour il me suffit.
Qui est disponible, on peut retrouver les épisodes.
On l'a sur SoundCloud, on doit l'avoir sur Spotify, on le récupère. Donc toutes les semaines, il y a un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière et comment on voit la semaine qui vient. Donc c'est pas mal, ou en tout cas les mois qui viennent. Et puis on fait des Zooms aussi réservés aux professionnels. Donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit email. On vous inscrit. Vous êtes là ce matin, j'ai fait un Zoom avec Arnaud Chenet sur Athymis Trendsetters Europe, notre fonds multithématique européen qui est cartonne, qui est à plus 12% depuis le début de l'année. Donc, et c'est super. Et donc ça nous. Et nous, on est très transparent. Alors nous, c'est un peu comme le truc de la mode. Dans les grands restaurants, maintenant, la cuisine est ouverte. Là. Donc on voit ce qui se passe derrière. On peut regarder dans la marmite. C'est exactement pareil. Donc on est très transparent sur ce qu'on fait, y compris les doutes qu'on peut avoir à un moment. Il y a certains qui disent c'est formidable, tout va très bien, ou cache tout. Nous, on présente aussi nos doutes, là où on va, ce qu'on a envie de faire, etc. Donc non, moi, je crois beaucoup à la transparence. Je fais aussi des comptes rendus de voyage. Même, je ne suis pas seul à voyager. Il y a Amina dans l'équipe qui est allée en Allemagne récemment. On fait des comptes rendus de voyage.
Amina, c'est une gérante.
Oui, elle gère le fonds Industrie 4.0 et le fonds Gen Z. Donc, Amina Touaibia, donc avec très bonne performance sur Industrie 4.0.
Mais il faut mieux te contacter plutôt qu'elle, parce que si elle commence à avoir des CGP qui.
Non, le commercial, c'est Wally Piller, wally.piller@atimis.fr, Wally, W-A-2-L-Y.P-I-2-L-E-R. @atimis.fr. Donc lui, il est commercial, c'est son boulot. Okay. Moi, on veut. Non, moi, si on n'est pas content, on envoie un message à Wally. Si on est content, on envoie un message de satisfaction. Ou l'inverse, voilà. Non, l'idée, c'est d'avoir le contact le plus proche. Et surtout, moi, ce qui l'autre jour, j'ai dit qu'on était une société indépendante et indépendantiste. Je crois qu'il y a beaucoup de CGP qui. Il y a beaucoup de regroupements chez les assets. Pour créer des usines. Hein, donc là, on dit consolidation, c'est incroyable la consolidation. C'est peut-être bien pour les actionnaires, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien pour la relation et le service. Je pense que le grand truc, c'est que chez nous, un petit client chez d'autres est un grand client chez nous. Et on fera toujours le maximum pour essayer de satisfaire le client et être très transparent dans ce qu'on fait.
Côté CGP, on a exactement le même phénomène, et moi je tiens à mon statut d'artisan de la gestion de patrimoine et,
ben voilà.
Et m'occuper de mes clients. Et d'ailleurs, ça me permet de faire ma promo. N'hésitez pas, si vous voulez du coup discuter de votre situation patrimoniale, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou même sur Instagram, puisqu'il y a un compte Instagram pour le coup qui est dédié au podcast. Mais je te remercie, Stéphane.
Merci à toi, c'est un grand plaisir de t'accompagner ici.
C'est gentil. Et quant à vous, je vais arrêter de vous dire à la semaine prochaine, parce que je suis tellement irrégulier dans le nombre de rendez-vous que je me dis...
À la prochaine.
À la prochaine, puisque effectivement, j'ai dit à la semaine prochaine, ils m'ont revu 6 mois après, pour ceux qui sont toujours là. En tout cas, je vous embrasse. Et à la prochaine, dans ce cas-là. Au revoir.
Au revoir.